Bienvenue au balado, le balado où on parle de nos ados, ces petits trésors d'êtres humains en pleine quête d'identité qui tentent, avec les moyens du bord, de faire leur place dans le monde. Pour cette troisième saison, les étudiants et étudiantes de troisième année du baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et à la santé de l'Université de Montréal s'emparent du micro afin de vous transporter dans le monde des ados. En leur compagnie, vous, les nombreux auditeurs et auditrices du balado, en apprendrez davantage sur les enjeux actuels et à venir qui touchent nos adolescents. Alors, attachez votre calotte cielée avec de la broche, car ce ne sont pas les sujets d'intérêt qui manquent cette saison.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui décrit bien notre société. Afin de mieux comprendre les différentes composantes qui font partie de notre sujet, nous avons invité Mme Hafsa El Mahmoudi, M. Younes Bouchata, M. Kevin Alder et M. Toussaint Luigi. Ils ont soulevé une question de recherche qui tente de mettre un peu de lumière sur une sphère qui touche un certain groupe d'adolescents. Alors sans plus tarder, laissons place à notre discussion. L'immigration n'est pas nouvelle au Québec. Cette province est un oasis pour des milliers de personnes qui laissent leur pays pour diverses raisons, comme la guerre, la pauvreté ou même le manque d'opportunités. Ces arrivants sont de tout âge, ils sont détenus de niveaux d'éducation et de statuts économiques différents. Le changement de pays, de mentalité, de culture et d'entourage est très difficile. Surtout pour les adolescents qui vivent déjà une période de changement sur le plan physique, comportemental, social, psychologique et sexuel, communément appelée l'adolescence, qui est d'ailleurs considérée comme une période à risque. D'où la question : quels sont les défis d'intégration des adolescents issus de l'immigration ? Nous sommes ici pour comprendre comment les facteurs de risque expliqués par nos spécialistes peuvent influencer sur l'intégration des adolescents issus de l'immigration. Nous allons commencer par écouter M. Alder sur le volet de la discrimination, surtout verbale, envers ces adolescents.
Dans une partie de mon texte, j'ai parlé de certaines phrases discriminatoires lancées contre les jeunes adolescents immigrants. Les exemples parmi ceux-ci sont « Retourne dans ton pays » et « Je n'aime pas ton accent ». On pourrait se dire en fait qu'il est normal que ces mots proviennent d'adolescents qui parlent sans filtre et qui disent la première chose qui vient à leur tête sans en juger les conséquences, comme moi-même ça m'arrive de le faire. Par contre, le problème est que même en étant adulte, ce genre de situations peuvent arriver. Effectivement, bien que ça paraisse incroyable, pour la réalisation de ce podcast, je suis tombé sur un article du Devoir qui aborde le cas d'un monsieur tibétain et non chinois, ce qui est important et drôle en même temps de remarquer, et vous allez voir pourquoi après, puisque justement, il s'est fait dire, et je cite, « T'es un chinois, retourne dans ton pays », en se faisant en plus lancer une bouteille quelques secondes après, qui ne l'a pas heureusement touché. La raison, les Asiatiques propagent le virus parce que la pandémie de COVID-19 a pris naissance en Chine. En plus, selon ce monsieur du nom de, je m'excuse de la prononciation, Jamso Sotse Jabo, raconte qu'une dame aurait fait un détour de 10 mètres pour l'éviter s'enfonçant ainsi elle et son auto dans la neige en raison de son apparence asiatique et le lien toujours avec la COVID-19. Bon, il serait possible de penser que cette déduction du type chinois égale COVID serait causée, comme il le mentionne dans l'article, par des tensions sociales. Par contre, dans ce même article du Devoir, il souligne qu'il y a clairement une hausse de la discrimination, du racisme et de la violence contre les Québécois, et je dis bien Québécois, qui sont d'origine asiatique. Selon moi, ici, l'idée principale à faire ressortir est qu'il s'agit bel et bien de personnes qui sont nées au Québec, qui parlent le français sans probablement aucun accent, qui possèdent des valeurs, des habitudes et des coutumes occidentales qui sont propres à la société québécoise, mais qui tout de même se font agresser en raison de certaines caractéristiques physiques. D'ailleurs, des biais cognitifs implicites qui mènent à des actes de discrimination sont à l'origine de d'autres propos racistes et même de tout propos sexiste par des actes délibérés. Et donc, comment éliminer des comportements discriminatoires qui se font de manière délibérée à l'âge adulte? Simplement à travers l'éducation quand on est à l'école. C'est pourquoi je suis en accord avec un autre article que j'ai trouvé qui appartient cette fois-ci au Nouvelliste et qui mentionne que l'éducation a effectivement un rôle essentiel contre la discrimination. En effet, cet article qui parle du cas d'une jeune fille noire d'origine africaine âgée de 11 ans qui s'est fait dire par son collègue de classe qu'il était trop noir et qu'elle avait un accent africain bizarre, il propose des solutions pour lesquelles je suis fortement en accord. Par exemple, les enseignants peuvent apprendre à leurs élèves davantage sur la culture des différents peuples et les parents peuvent aussi apprendre aux enfants les comportements qui sont liés au racisme. Pour terminer ici cette partie du podcast et laisser comme réflexion aux autres personnes qui l'écoutent, je crois que la problématique de la discrimination et des propos discriminatoires contre les adolescents ou contre les personnes immigrantes n'a simplement pas d'âge, donc ça veut dire que ça n'arrive pas seulement au secondaire, comme nous avons pu démontrer dans notre travail, ou dans la vie, mais c'est simplement le fait que je crois que les stéréotypes n'ont pas d'âge, ni le racisme, ni les actes racistes non plus. Et c'est pourquoi nous pensons que l'éducation devrait jouer à la base un rôle primordial.
Merci, Monsieur Alder. Nous savons très bien que la discrimination verbale fera sentir à un adolescent immigrant qu'il est beaucoup plus un étranger qu'une personne qu'on accueille à bras ouverts. Pour continuer, nous savons que l'adolescent se recherche sur plusieurs sphères de sa vie. Écoutons ce que Madame Hafsa a à dire sur le sujet.
La phase d'adolescence est une phase très 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 compliquée et ça doit être encore plus compliqué pour un adolescent issu de l'immigration. Quand t'es adolescent, tu cherches une identité, t'es en pleine quête identitaire, alors que quand t'es un adolescent immigrant, il y a un environnement très différent dans lequel t'as grandi en fait, parce que la culture d'accueil et la culture d'origine diffèrent énormément et on n'en parle même pas des idées des parents qui influencent. L'adolescent il est juste perdu. Il sait pas où se retrouver, il sait pas quoi poursuivre, il sait pas quel chemin prendre, il voit que l'environnement est très différent, il est perdu et ça devient très difficile. Et ce qui devient encore plus difficile, c'est vraiment le fait qu'il vive des situations de discrimination ou de racisme, parce que c'est pas facile de vivre dans un environnement qu'on ne connaît pas. Et on espère que l'adolescent espère d'être accueilli convenablement et c'est pas facile quand il vit des choses comme ça. L'adolescence vécue par un immigrant, ça peut provoquer plusieurs problèmes au niveau de sa santé mentale et physique. Plusieurs adolescents viennent de pays en guerre ou de pays pauvres et ça reste dans ça, il y a beaucoup de séquelles qui restent. C'est des événements traumatisants pour ces jeunes et c'est difficile qu'ils s'en sortent indemnes. Donc c'est pour ça qu'il faut être là pour eux au lieu de les rabaisser. Donc pour ce faire, la valorisation de leur pays d'origine est très importante, parce que lorsqu'on valorise le pays d'origine d'un certain jeune, il se sent plus intégré et a moins de difficultés à discuter par rapport à ce genre de sujet. Il va se sentir beaucoup plus compris et valorisé et aura moins de réactions violentes ou agressives par rapport à ce genre de sujet. Quand des adolescents voient qu'ils ne sont pas bien intégrés, le premier réflexe qu'ils ont à faire, c'est de trouver un groupe ethnique qui leur ressemble. Ils vont se rassembler, ils vont être ensemble tout le temps. Ils vont croire que c'est eux contre le reste de la population de où ils vivent. Donc, par exemple, un jeune immigrant qui vient du Liban, et qui voit qu'il vit certaines choses, c'est sûr qu'il va se retourner vers un groupe. Un groupe où il y a beaucoup d'adolescents libanais, syriens, qui ressemblent à... Ils vont se retourner vers un groupe où il y aura des pays qui vont être similaires à leur pays d'origine. Ou par exemple des Maghrébins qui vont traîner ensemble. C'est un peu pareil. Donc le fait d'intégrer les jeunes adolescents, ça va leur permettre de se mélanger avec la population du pays d'accueil. Aussi, les enfants qui viennent avant l'âge de 10 ans, ils se sentent beaucoup plus intégrés, ils se sentent canadiens, alors que lorsque tu viens après 10 ans, c'est difficile de sentir que t'es intégré, parce que t'as encore des souvenirs de ton pays d'origine. Personnellement, je suis venue à l'âge de 3 ans et je me sens bien, je me sens Afsa ici, qui vit au Québec, comme tout le monde. Mais je pense que si j'étais venue un peu plus tard, ça aurait été très 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 différent, parce que j'aurais déjà acquis la culture d'origine et elle serait en confrontation avec la culture d'accueil. Un petit exemple, c'est le film Mentalité dangereuse. On voit très bien les élèves, comment ils sont difficiles à gérer, mais ils se sentent juste pas valorisés. C'est ça le problème, c'est que tous les enseignants qui sont passés par là, ils ont eu de la difficulté, mais sauf une enseignante qui a eu de la facilité par la suite, parce qu'elle a su comprendre leur situation et de voir à quel point il y en a qui vivent dans de la pauvreté, dans des quartiers de gangs de rue, et on en passe. Donc, en général, les adolescents issus de l'immigration, ils ont juste besoin d'être valorisés et d'être compris, et de ne pas faire face à ce genre de situation de racisme, de discrimination, ce qui est très difficile à gérer au quotidien. Plusieurs jeunes n'ont pas une bonne estime de soi, etc. Et le fait qu'on leur dise que tu ne sers à rien ici, ou que tu ne sais pas parler français, va-t'en, tu sers à... Ils ne trouvent pas de travail. C'est compliqué à gérer tout ça, c'est très 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 compliqué. Et malheureusement, c'est des choses qui arrivent dans notre quotidien et qu'on ne remarque pas souvent. Donc c'est pour ça que la phase d'adolescence, il faut qu'elle soit traitée d'une manière très 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 délicate, parce que c'est pas facile de vivre tous ces événements à un certain âge. C'est beaucoup de poids sur les épaules pour un jeune adolescent. Alors le meilleur à faire, c'est de vraiment essayer d'intégrer les jeunes, valoriser leur pays d'origine, et j'espère que par la suite on verra moins d'événements comme ça.
Merci Madame Afsa. Le jeune immigrant issu de l'immigration a beaucoup de travail à faire pour se retrouver. Il a besoin de soutien, de se sentir valorisé afin d'avoir une bonne intégration. Sur une autre sphère, nous allons voir comment la famille peut jouer dans l'intégration du jeune adolescent. Monsieur Younes, c'est à vous.
Bonjour à tous. Dans cette section, nous allons parler de l'intégration des adolescents immigrants à l'école. Donc, en faisant nos recherches, nous sommes tombés sur l'article de Christelle Tardif, publié en 2011 dans une revue en psychoéducation. Et elle s'est intéressée au désengagement scolaire des amis, le rendement scolaire des élèves et les principes parentaux de la communauté haïtienne vivant en milieu défavorisé. Elle voulait essayer de comprendre ce qui affecte le rendement des élèves. Donc, pour s'y faire, elle a testé leur niveau de français. Elle s'est aussi, dans sa recherche, elle s'est rendue compte que les parents qui imposaient beaucoup de règles à leur enfant à la maison ont un rendement plus élevé. Par contre, si par exemple les parents sont plus distants et que c'est les intervenants scolaires qui interviennent plus auprès de l'adolescent, alors le rendement scolaire diminue. De plus, si les parents ne maîtrisent pas bien le français, alors ils ne pourront pas aider leur enfant. Par exemple, si leur enfant il a un devoir en mathématiques, ils ne pourront pas bien comprendre la situation de problème, donc ils ne pourront pas aider leurs enfants. Un autre problème auquel l'adolescent sera confronté, c'est de se faire des nouveaux amis. En effet, si par exemple tu viens tout juste d'arriver, ça sera difficile pour toi de te faire des amis parce que les cercles d'amis sont souvent déjà établis. Dans ce cas-là, l'adolescent sera dans une situation de rejet. Le problème, c'est qu'il se peut qu'il traîne avec des personnes qui sont en désengagement scolaire. Donc en gros, ça fait comme un effet de contamination. Si l'adolescent il traîne avec des, élèves qui sont engagés à l'école, alors lui aussi il sera engagé. Mais s'il traîne avec des personnes qui sont désengagées, alors l'adolescent lui-même, il sera désengagé. Le problème avec cet article, c'est qu'on ne sait pas ce que l'adolescent fait après l'école. Est-ce que cet adolescent, il étudie? Est-ce que cet adolescent, il travaille parce qu'il doit subvenir aux besoins de sa famille? On ne sait pas s'il a des frères et sœurs qui sont eux aussi désengagés, ou on ne sait pas aussi si dans son quartier aussi c'est un quartier défavorisé où les gens sont déscolarisés. Personnellement, je suis arrivé ici à l'âge de 6 ans, pardon, et j'ai dû apprendre le français très rapidement pour pouvoir m'intégrer. Donc malheureusement, vu que je l'ai appris en à peu près 2 semaines, j'ai dû oublier ma langue maternelle qui est le berbère. Donc pour pouvoir m'intégrer, j'ai dû faire des sacrifices. Et malheureusement, des fois, ça me rend malheureux parce que j'ai un certain blocage. Je n'arrive pas à parler ma langue maternelle, mais je la comprends très bien. Ce sacrifice m'a permis de m'intégrer à l'école parce que en apprenant le français, je comprenais mieux ce que le prof disait. Donc, je comprenais mieux les consignes, je savais plus quoi faire à l'école. En grandissant, j'ai remarqué, par exemple au secondaire, j'avais un ami qui pouvait parler à une personne et changer d'accent très rapidement. Par exemple, il pouvait passer de l'accent québécois avec une personne, un accent montréalais avec une autre et un accent français avec une autre personne. Pour faire un autre lien avec le texte de Madame Christelle Tardif, lorsque j'étais en secondaire 5, deux Algériens étaient nouvellement arrivés à Montréal et ils étaient dans ma classe. Donc pour eux, c'était un peu difficile de se faire des amis, malgré qu'il y avait beaucoup d'Algériens dans mon école secondaire. Comme on avait parlé précédemment, c'est difficile pour un adolescent immigrant de s'intégrer parce que les cercles d'amis sont déjà établis. Et c'était mon cas. Donc j'ai dû créer un autre cercle d'amis pour les intégrer. Donc je ne les ai pas intégrés à mon cercle d'amis, mais j'ai plutôt créé un autre.
Je vous remercie, Monsieur Younes. Il est indéniable que l'école est un pilier important dans l'intégration des adolescents issus de l'immigration. Un autre phénomène qu'on entend parler depuis plusieurs années est l'expansion des gangs de rue. Voyons ce que M. Toussaint a à dire de la situation. Nous croyons que ça peut jouer un rôle très important dans l'intégration des adolescents issus de l'immigration.
En effet, M. Michel, les gangs de rue ne datent pas d'hier. Ils ont été cités pour la première fois en 1987. C'est un phénomène d'ailleurs qui a commencé avec une lutte contre la discrimination. Depuis, on ne fait qu'entendre des situations évoquant des délinquants de la rue, comme des meurtres ou des vols. C'est un phénomène qui touche plusieurs quartiers de Montréal et il est connu à travers les deux gangs les plus populaires, les Bloods et les Crips. Pour parler des ados et des gangs de rue, il faut parler du recrutement. Et il se fait d'ailleurs très tôt. Selon une recherche, la plupart des répondants étaient adolescents lorsqu'ils se sont fait aborder par les gangs de rue. Il faut aussi noter que certaines fois, ils baignent déjà dans l'entourage car ils ont des aînés, comme les grands frères, les grandes sœurs ou même des parents qui font partie d'un gang de rue. Il faut dire aussi que le gang de rue a ses propres valeurs, sa culture et même son propre langage la plupart du temps. Ceci va démontrer que pour un adolescent qui se recherche et se sent rejeté, le gang de rue, qui va contenir souvent des jeunes immigrants de la même ethnie et qui pensent de la même façon, devient comme une lueur au fond d'un tunnel. Une fois que le jeune entre dans ce monde rempli de drogue, de crimes, il est difficile pour lui d'en sortir. Donc il est très difficile de parler d'intégration pour des personnes qui se mettent déjà à l'écart. Et si on va dans le volet de la famille, la surveillance parentale souvent est inexistante. On retrouve dans les familles immigrantes beaucoup de familles nombreuses ou des mères et des pères monoparentales. Ils vont prioriser le travail car il y a des bouches à nourrir. Alors, si l'enfant n'a personne qui lui sert de guide, Il va essayer de retrouver ce qui se rapproche le plus d'une famille pour lui. Et pour, dans ce plan-là, les gangs de rue sont assez bons pour les attirer dans leur filet. Malheureusement, ce ne sont pas tous les jeunes ados immigrants, et nous le savons, qui sont dans une mauvaise direction. Mais ils vont souvent payer le prix pour ceux qui font les mauvais choix. On peut parler alors de profilage racial. Par exemple, moi je l'ai déjà vécu et je me suis fait arrêter par une policière en roulant dans une Cadillac pour mon travail. Elle m'a vu dans la voiture, elle a vu ma couleur de peau et mes cheveux. J'avais des twists à l'époque. Et elle s'est dit que je ne pouvais pas posséder un objet de valeur parce que je paraissais jeune et puis je ne paraissais peut-être pas assez riche à ses yeux. Donc je n'ai rien à me reprocher, j'ai fait ce qu'on m'a demandé, mais c'est triste de voir que on se fait juger par notre apparence et non qui on est. Donc la proximité aux gangs de rue peut beaucoup jouer sur l'intégration des jeunes immigrants. Et une fois qu'on est stigmatisé, des fois il est difficile de sortir de ce moule. Il en est à tous et à toutes de travailler pour améliorer la pensée commune. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Toussaint. Et merci aussi aux autres spécialistes qui ont partagé avec nous leurs trouvailles sur le sujet et aussi que leur expérience, car ils sont issus de l'immigration. En conclusion, nous pouvons réaliser que plusieurs facteurs peuvent influencer l'intégration des adolescents issus de l'immigration. On peut citer la situation familiale, le milieu socio-économique, les politiques mises en place par les établissements scolaires et même les valeurs de la société à laquelle ils doivent s'inclure. Pendant l'adolescence, les défis sont nombreux et il y a plusieurs choix à faire. Il sera toujours difficile de mettre en place un système qui favorise l'intégration de tous les jeunes arrivants. L'acceptation, le soutien et la compréhension seront toujours des points clés dans la réussite d'intégration des immigrants. Il faut dire que les adolescents arrivent avec leur bagage et c'est difficile pour un individu de se défaire des mœurs, des coutumes qui l'ont bercé depuis l'enfance. Plusieurs organismes comme la Maison d'Haïti ou des personnalités comme M. Fabrice Ville ou M. Martin Dussault travaillent fort pour aider à l'intégration des immigrants en leur donnant de meilleures options de vie ou en essayant de changer les mentalités des personnes qui ne vivent pas dans la même situation. Mais qu'est-ce qu'une intégration réussie finalement? Est-ce lorsqu'un individu se défait de sa culture ou adopte les valeurs de la société dans laquelle ils baignent? Ou est-ce lorsque le gouvernement leur tend ce fameux papier qu'est la citoyenneté? Ceci fera l'objet d'une autre discussion. Merci et à la prochaine.